Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on fait un petit saut dans le temps, le 1er juin 2005.
Ah oui, une date charnière.
Exactement, c'est le jour où la machine européenne s'est enrayée net. On a une participation record à 63%, et là, 61,5% des électeurs néerlandais balayent le traité constitutionnel européen.
Ce qui anéantit de fait l'unanimité requise des 25 à l'époque.
C'est ça. Donc la question qui nous anime aujourd'hui est fondamentale. Ce nom spectaculaire était-il un refus, disons, rationnel et direct de l'architecture institutionnelle européenne de l'époque, ou bien s'agissait-il avant tout d'un exitoire politique face à une crise identitaire purement nationale?
Vaste sujet.
Pour moi, il est évident que ces électeurs ont posé un diagnostic lucide sur les dérives technocratiques de l'Union.
Malaise interne, une vraie fracture nationale qui cherchait désespérément une cible.
Bon, on peut facilement être tenté de réduire ça à des querelles locales, mais soyons justes envers les électeurs néerlandais.
Bien sûr.
Ce sont, historiquement, parmi les plus gros contributeurs nets à l'Union européenne par habitant. Ils n'ont pas voté à l'aveugle, par simple humeur.
Vous pensez que c'était une réaction calculée ?
Totalement. Ils ont réagi de manière très proportionnée à une Europe qui, franchement, s'imposait au bulldozer. Pensez-y, l'adoption précipitée de l'euro, l'élargissement massif à 10 nouveaux pays en 2004, sans aucune consultation préalable.
C'est vrai que le rythme était intense.
Voilà. Ce référendum, c'était tout simplement le moment où ils ont pu dire stop au risque très concret de dilution de leur souveraineté.
C'est une lecture très rationnelle des choses. Mais... la politique n'est pas toujours aussi froide. Avez-vous pris en compte le climat littéralement explosif de 2005 ?
Vous parlez du contexte national ?
Absolument. Nous sommes à peine quelques mois après l'assassinat glaçant du cinéaste Theo van Gogh par un islamiste radical. La société néerlandaise est à vif.
Oui, c'était une période très sombre.
L'immigration est au cœur de débats extrêmement brutaux. Et au milieu de tout ça, comment le Premier ministre Balkenende gère-t-il la campagne du référendum ?
Assez mal, il faut l'avouer.
Avec une condescendance terrible, allant jusqu'à agiter le spectre des guerres du XXe siècle si les gens osaient voter non. Le traité constitutionnel est simplement devenu un paratonnerre idéal pour toutes ces angoisses.
Enfin, vous parlez de paratonnerre comme si leurs craintes n'avaient rien à voir avec le texte lui-même. Je ne suis pas d'accord.
Ah non ?
Non, parce que quand on demande à un citoyen d'approuver une architecture institutionnelle aussi lisible, sa réaction de rejet est parfaitement logique. Regardez comment Bruxelles a réagi par la suite.
Avec le traité de Lisbonne en 2009 ?
Exactement. Ils ont contourné les électeurs pour imposer ce traité. Ils y ont remis le président du Conseil, la charte des droits fondamentaux. C'est littéralement changer l'étiquette d'un contrat de plusieurs centaines de pages que le client a déjà formellement refusé de signer.
C'est une image forte.
Ce jour-là, à La Haye, un électeur l'a d'ailleurs magnifiquement résumé. Il a dit « On nous demande de signer avant d'avoir lu ».
Je l'aborde d'une manière différente, figurez-vous.
Je vous écoute.
La vraie leçon que les chancelleries ont tirée de cet échec, ce n'est pas qu'il y avait un excès d'Europe dans ce texte. C'est que la consultation directe sur des sujets aussi abstraits est extrêmement périlleuse.
Périlleuse pour les dirigeants, vous voulez dire ?
Non, périlleuse démocratiquement. Parce qu'un référendum sur un traité aussi complexe finit invariablement par capter des frustrations hors sujet. À Bruxelles, on discutait de l'adhésion de la Turquie à ce moment-là.
C'est vrai, ça faisait les gros titres.
Et ça n'avait juridiquement rien à voir avec la Constitution. Mais dans l'esprit public, c'est venu se greffer sur les angoisses liées à l'émigration dont je parlais. Les électeurs ont sanctionné un climat global.
Mais si ces peurs périphériques explosent lors d'un référendum, c'est précisément parce que les dirigeants européens ont fait preuve d'un aveuglement coupable face à la réalité du terrain.
Peut-être, oui.
S'ils ignoraient l'impact de l'élargissement et de leur politique sur le quotidien, il est tout à fait sain que les citoyens utilisent le seul vrai levier démocratique qu'on leur accorde pour se faire entendre.
Sauf que le fait d'avoir balayé cette colère locale a eu des répercussions désastreuses. Le non n'a pas détruit l'Europe, puisque le traité de Lisbonne a fini par passer.
En effet.
En revanche, ignorer cette frustration a durablement fracturé le paysage politique néerlandais. C'est un engrenage très clair. Geert Wilders, qui n'était qu'un député marginal faisant campagne sur la souveraineté en 2005, a pu capitaliser sur cette colère ignorée.
Oui, son ascension a commencé là.
Et presque 20 ans plus tard, fin 2023, son parti est devenu la première force politique du pays. La défiance est passée d'un simple vote de rejet à une véritable force de blocage nationalisée.
C'est une trajectoire indéniable, et je vous concède volontiers l'aveuglement de la classe dirigeante de l'époque. Mais au final, qu'est-ce qu'on retient de cette séquence historique ?
C'est toute la question.
Je maintiens que malgré ses répercussions politiques locales, ce scrutin reste avant tout la critique légitime et lucide d'un projet technocratique européen construit à marché forcé.
Et pour ma part, l'histoire a prouvé que ce vote était surtout la cristallisation des peurs d'une société néerlandaise profondément divisée. Ce référendum a servi de miroir à une crise bien nationale.
Nous pouvons tout de même nous accorder sur une vraie victoire psychologique des électeurs. Le mot « constitution » a été définitivement banni du vocabulaire bruxellois.
Absolument. Et la méfiance née ce jour-là n'a peut-être fait que changer de visage, mais elle ne s'est jamais dissipée.
C'est donc à vous qui nous écoutez de déterminer le véritable sens de ce vote. Entre le besoin vital d'intégration supranationale et l'exigence de la démocratie directe, l'équilibre reste incroyablement complexe à trouver.
Tout à fait.
Quand l'histoire s'écrit dans les urnes, il y a toujours plus à décrypter qu'un simple bulletin. Merci de nous avoir suivis.